Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié après la mort d'Arthur Schopenhauer sous le titre « La dialectique héristique », « L'art d'avoir toujours raison » est un bref traité de rhétorique polémique rédigé vers 1830. Le philosophe y observe non la discussion idéale orientée vers la vérité, mais la controverse telle qu'elle se déroule souvent dans la vie sociale, une lutte où chacun veut sauver sa position et triompher de son opposant. L'ouvrage recense 38 stratagèmes permettant de paraître avoir raison, y compris lorsque les faits ou la logique ne soutiennent pas la thèse défendue. Bon, son propos est volontairement ambigu, il décrit des procédés de mauvaise foi, mais cette description permet aussi de les reconnaître et de s'en protéger. Ni manuel de logique formelle ni guide de communication apaisé, ce texte condense la vision pessimiste de Schopenhauer sur la vanité et l'amour-propre. Il demeure utile pour lire avec davantage de vigilance les débats ordinaires, médiatiques et politiques. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la dialectique héristique traite de la victoire plutôt que de la vérité. Le point de départ du livre est la séparation entre avoir objectivement raison et réussir à faire croire que l'on a raison. Schopenhauer nomme dialectique héristique l'art de mener une controverse pour l'emporter, par opposition à une recherche commune du vrai. Cette distinction explique le ton du texte. L'auteur ne prétend pas offrir une méthode philosophique pour établir des conclusions solides, mais un inventaire des gestes qui transforment un échange en duel verbal. Une thèse peut être juste et mal défendue, tandis qu'une thèse fragile peut paraître convaincante grâce à la vitesse, à l'assurance ou au déplacement du terrain de discussion. La logique d'une démonstration ne suffit donc pas à expliquer l'issue d'un débat réel. Il faut également considérer l'amour-propre des interlocuteurs, la présence éventuelle d'un public et leur capacité inégale à suivre les raisonnements. En exposant ce décalage, Schopenhauer retire à la discussion son image idéaliste. Il montre que l'adhésion se gagne parfois par des moyens qui ne prouvent rien. Cette perspective ne conduit pas nécessairement à adopter les procédés décrits. Elle permet plutôt de distinguer plus rigoureusement validité, persuasion et domination symbolique. Deuxièmement, les 38 stratagèmes dévoilent les détours de la mauvaise foi. La forme la plus célèbre de l'ouvrage est sa liste de 38 stratagèmes. Schopenhauer y rassemble des manœuvres récurrentes, élargir abusivement l'affirmation adverse pour la rendre plus facile à attaquer. Exploiter une exception comme si elle détruisait une règle, changer de sujet au moment décisif, demander des concessions séparées afin d'imposer ensuite une conclusion, ou encore recourir à une autorité lorsque les raisons manquent. L'intérêt de cette liste tient moins à une recette universelle de victoire qu'à sa fonction de diagnostic. Chaque procédé attire l'attention sur un moment où le débat cesse de porter sur la question initiale. Une réfutation peut sembler efficace tout en ne visant qu'une version déformée de la position opposée. De même, un argument spectaculaire peut impressionner un auditoire sans répondre au point discuté. Le lecteur apprend ainsi à demander quelle proposition exacte est en jeu, quelles prémices ont été admises et si la conclusion les suit réellement. Le catalogue reste marqué par une conception combative de la parole et peut encourager une lecture cynique. Mais il constitue aussi un répertoire précoce des sophismes pratiques, particulièrement éclairant lorsque la discussion privilégie la formule rapide sur l'examen patient des raisons. Troisièmement, attaquer la chose ou la cohérence de l'adversaire deux plans distincts, Schopenhauer distingue deux manières principales de contester une thèse. La première, ad rem, porte sur la chose elle-même, elle cherche à montrer que la proposition ne correspond pas aux faits ou que son raisonnement échoue. La seconde, ad hominem, au sens classique employé dans le traité, consiste à confronter l'interlocuteur aux conséquences de ses propres paroles, principes ou concessions antérieures. Il ne faut pas confondre ce dernier usage avec l'insulte personnelle au sens contemporain. Relever une contradiction entre deux positions assumées peut être pertinent, mais cela ne démontre pas automatiquement qu'une affirmation est fausse dans l'absolu. Cette différence est essentielle pour évaluer un débat. Une critique ad rem vise la solidité objective du raisonnement. Une critique ad hominem vise la cohérence d'une personne avec ce qu'elle a déclaré ou accepté. Les deux peuvent avoir une utilité argumentative, mais elles ne produisent pas le même type de résultat. Le livre aide à repérer les glissements qui font passer une incohérence individuelle pour une réfutation des faits ou inversement. Cette clarification révèle aussi une limite des controverses publiques. Elle se concentre volontiers sur les positions passées, les intérêts ou les embarras d'un locuteur. Car ce terrain est souvent plus facile à exploiter que l'analyse précise d'une question complexe. Quatrièmement, réfutation directe et indirecte, examiner les prémices ou les conséquences. Le traité organise aussi la réfutation selon deux voies. La voie directe s'attaque au fondement d'une thèse, elle examine les prémices, les définitions et le passage qui conduit à la conclusion. Si les bases sont fausses, insuffisantes ou incompatibles entre elles, la conclusion perd son appui. Cette démarche se rapproche le plus d'un examen rationnel, car elle oblige à préciser ce qui est effectivement soutenu. La voie indirecte accepte provisoirement la thèse adverse pour en tirer des conséquences problématiques, absurdes ou contraires à des faits admis. Elle peut prendre la forme d'une réduction à l'absurde. Son efficacité dépend cependant de la rigueur avec laquelle les conséquences sont déduites. Une caricature des effets possibles ne réfute rien, en distinguant ces méthodes. Schopenhauer met en lumière une question toujours actuelle, un débat est plus clair lorsque les participants indiquent s'ils contestent les données de départ ou les résultats qui en découlent. Dans la pratique heuristique, cette distinction peut servir à coincer l'adversaire. Pour un lecteur critique, elle sert surtout à éviter les faux dilemmes et les objections imprécises. Elle rappelle qu'une conclusion choquante ne suffit pas à invalider une argumentation, pas plus qu'une prémisse populaire ne garantit une conclusion valable. En dernier lieu, le pessimisme de Schopenhauer fixe les limites d'un débat fécond. Ehlhardt d'avoir toujours raison ne célèbre pas simplement l'habileté oratoire. Son arrière-plan est une méfiance profonde envers les dispositions humaines dans la dispute. Schopenhauer estime que l'amour-propre rend difficile la reconnaissance d'une erreur et que l'irritation pousse facilement à la mauvaise foi. Son stratagème final, qui évoque le passage à l'attaque blessante lorsque la défaite approche, décrit crûment la dégradation posthume possible d'une controverse. Il ne doit pas être lu comme une norme de civilité, mais comme l'aveu d'une logique de combat arrivée à son terme. Le texte formule parallèlement une condition exigeante pour qu'une discussion soit réellement profitable, les interlocuteurs doivent posséder un niveau assez proche de savoir et de compréhension, accepter des arguments fondés et accorder plus de valeur à la vérité qu'au prestige. Sans ces conditions, poursuivre un échange peut produire davantage de bruit que de clarification. Cette position est sévère, voire élitiste, mais elle invite à choisir les cadres de discussion avec discernement. Elle distingue le désaccord, qui permet de corriger ses idées du spectacle de confrontation où personne ne peut changer d'avis sans perdre la face. La leçon pratique est moins de vaincre que de reconnaître tôt les échanges qui ne peuvent plus devenir rationnels. En conclusion, ce livre conviendra aux lecteurs de philosophie, de rhétorique et de communication qui veulent comprendre les mécanismes concrets des controverses plutôt que recevoir un manuel de prise de parole consensuelle. Il peut intéresser les étudiants, journalistes, juristes, professionnels confrontés à des négociations, ainsi que toute personne soucieuse de mieux lire les débats médiatiques ou politiques. Son bénéfice principal est défensif en identifiant les déplacements de questions. Les généralisations abusives, les appels à l'autorité et les attaques contre la personne, le lecteur devient moins vulnérable à une victoire seulement apparente. Il peut aussi améliorer sa propre discipline argumentative, en séparant ce qui prouve une proposition de ce qui impressionne un auditoire. L'ouvrage demande toutefois une lecture critique. Utilisé comme boîte à outils pour dominer autrui, il contredit les exigences d'une discussion honnête. Sa valeur tient précisément à cette tension Schopenhauer expose sans fard des pratiques que beaucoup de traités de logique laissent à la marge. Contrairement aux manuels qui enseignent l'argumentation idéale ou les principes abstraits de la persuasion, il s'attache aux ruses, aux résistances psychologiques et aux rapports de force qui perturbent les échanges réels. Sa brièveté, sa structure en stratagème et son ironie pessimiste lui donnent une portée durable. Ce n'est pas un guide pour avoir raison au sens intellectuel. C'est un instrument lucide pour comprendre pourquoi le débat public confond si souvent vérité, cohérence et victoire. Si vous souhaitez soutenir Arthur Schopenhauer, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.